12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
C'est un voyage dans le temps aux côtés des artistes du monde arabe que nous vous proposons ce midi avec ces deux expositions. Direction d'abord le musée d'art moderne de la ville de Paris. Pour présence d'arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988, pour réfléchir au rôle paradoxal de la capitale dans l'essor de ces artistes. Nous irons ensuite à l'Institut du monde arabe qui questionne les sociétés d'aujourd'hui et rêve les mondes de demain avec une autre exposition arabe au futur, science-fiction et nouveaux images.
Et on en parle avec vous, Stéphane Coréard. Bonjour.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes critique et commissaire d'exposition, directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Et on en parle avec vous, Sally Bonne, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes maître de conférence en esthétique à l'université Picardie Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Jusqu'au 25 août prochain, au Musée d'Art Moderne de Paris, vous pourrez découvrir cette exposition « Présence arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988 ».
Vous venez, monsieur le Président, de faire en un quart d'heure le tour du monde. Que d'images ont dû s'éveiller dans l'esprit de l'ancien colonial que vous êtes, à la vue de ces palais, vous voisines, la langoureuse Asie et la brûlante Afrique se déclarent ouvertes. L'exposition internationale coloniale de 1931, noble entreprise d'union et de paix entre les nations.
Nous sommes donc en 1931 dans le bois de Vincennes au moment de l'inauguration de l'exposition coloniale internationale avec les pavillons notamment des colonies françaises. Au même moment, le Parti communiste français et les surréalistes proposent la contre-exposition « La vérité sur les colonies ». Et c'est ce pari paradoxal que met en lumière justement cette exposition présence arabe, une capitale coloniale et anticoloniale, une capitale qui accueille les artistes du monde arabe et participe au développement de cet art et qui en même temps est le centre de l'empire colonial de la France. Jusqu'à fin août donc, le musée d'art moderne expose plus de 200 œuvres, 130 artistes, pour la plupart jamais montrés en France, avec comme objectif de renouveler le regard historique sur ces scènes artistiques. L'exposition est présentée comme une réhabilitation historique et une réconciliation de la France avec l'histoire de l'art colonial et post-colonial. Sally Bonne, qu'en avez-vous pensé ?
Alors c'est une exposition vaste, importante, et notamment pour comprendre à la fois la signification et la nécessité de ce qu'on nomme aujourd'hui la décolonisation des esprits. Donc pour le comprendre, si, pour ceux qui ne le comprendraient pas, ça, c'est bien d'aller voir cette exposition, et elle est importante pour cela, parce qu'elle fait apparaître ce que la colonisation fait à l'art et aux artistes. Et dans quelle tension cela les inscrit, notamment entre projets avant-gardistes, modernité artistique et identité culturelle, et aussi les influences, hein, comment l'art, notamment français, influence des artistes des pays colonisés. Ce qui, pour certains présentés dans l'exposition, se traduit notamment par une existence... Et une pratique toujours en exil, que cet exil soit réel ou intérieur. Il y a beaucoup d'écrivains et de poètes qui accompagnent en fait l'ensemble des artistes qui sont présentés. Et il y en a notamment un qui s'appelle Georges Henin, ou Henin, je ne sais pas comment on prononce, qui est un poète et écrivain égyptien qui dit et qui écrit « Où cesserons-nous d'être de passage ?» Et ce que raconte cette exposition, c'est cet effet-là, en fait, d'aller-retour entre le centre de la vie artistique que serait Paris. En tant que, vous l'avez dit Nicolas, elle accueille des artistes venus d'Égypte, du Liban, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Syrie, d'Irak et d'Iran. Et en tant aussi qu'elle projette, en fait... l'image de ce que doit être l'art. Et donc on voit bien que cette tension, elle est en jeu. Il y a un exemple qui est très manifeste. Tout d'un coup, on rentre dans une des salles, c'est pas au début, c'est plutôt dans la deuxième partie, je pense, et on a une espèce de mur entier de petits tableaux, enfin plus ou moins grands, et on a l'impression d'être devant beaucoup de tableaux qu'on reconnaît en fait. C'est-à-dire on a l'impression de voir un De Staël ou un Poliakov, en fait on reconnaît un certain style et certaines formes. Et Et c'est là que se pose la question, à quel moment, en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une influence sur ces artistes qui, en l'occurrence, viennent des pays que je viens de citer, ou au contraire, on peut le penser en termes d'internationalisation de l'art, c'est-à-dire comment, en fait, bien finalement, cet art, ces formes-là, ces styles se diffusent, justement, ailleurs que dans le centre artistique. Alors, ce qui est intéressant dans ce mur-là, c'est qu'il y a un tableau d'Etel Adnan qui, en fait, arrête le regard, parce que tout d'un coup, il sort complètement de cette problématique-là et c'est un tout petit tableau hein, mais vraiment très très beau qui est simplement une espèce de figure sur un fond horizontal bicolore qui est magnifique. Et donc là, il y a quelque chose qui se passe qui est un peu au-delà de cette dialectique que je viens d'exposer.
Alors l'exposition dure jusqu'à la fin du mois d'août. Elle est très dense, il faut bien le dire. Il y a un parcours qui est, Sally Bonne l'a dit, transnational, avec donc des artistes qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Asie de l'Ouest. Leur point commun, c'est qu'ils sont tous passés par Paris, soit ils y ont vécu, étudié, exposé, milité. Ça, c'est leur point commun. Et l'autre façon de concevoir cette exposition, Stéphane Coréard, c'est le parcours chronologique. Donc, on débute en 1908 jusqu'en 1988. Et justement, on voit au fur et à mesure aussi de l'évolution et de l'avancée dans ce 20e siècle et qu'arrive la décolonisation, que les artistes évoluent aussi et on voit leur art, l'art moderne, arabe s'afficher aussi devant nos yeux.
Oui, alors malheureusement, pour que ce que vous exposez soit complet, il aurait fallu qu'on voit aussi le parcours de chaque artiste. Or, la plupart des artistes ne sont là que sous forme de photographie à un moment de leur carrière, ce qui ne permet pas justement de saisir peut-être comment leur singularité va se développer. Cette exposition, effectivement, c'est un grand shaker, c'est-à-dire qu'on a mis dedans tous les artistes qui ont à la fois un lien avec Paris et avec le monde arabe. Et effectivement, là où c'est spécifique, parce qu'une bonne partie de ce que vient d'exposer Sally Bonne pourrait s'appliquer à plein d'autres artistes qui venaient de Russie, du Japon, de Hollande, puisque Paris était la capitale artistique dans ces années-là, en tout cas dans la première partie du XXe siècle. Ce qui est spécifique, effectivement, et c'est bien pour ça qu'on fait cette exposition sur la décolonisation, c'est le rapport colonial qu'il y avait entre la France et ces pays. Mais il s'exprime dans l'exposition, et c'est là où je dis que c'est un grand shaker, de beaucoup de manières différentes, parce que ces artistes qui sont venus à Paris, en fait, venaient parfois de profils diamétralement opposés. Certains étaient, par exemple, issus de familles de colons. Ce sont des Français dont les parents colons vivaient dans ces territoires et qui, alors ceux qui sont dans l'exposition, c'est les bons entre guillemets, hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont bien tourné et qui étaient anticolonialistes. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais enfin, donc c'est des réalités très différentes. Puis il y en a aussi qui étaient des familles extrêmement riches et bourgeoises qui ont envoyé leurs enfants à Paris. Puis il y en a d'autres, c'est la misère au contraire qui les a amenés à Paris. Donc toutes ces réalités se juxtaposent et font que je pense qu'il est très difficile de comprendre en fait cette exposition parce que il y a deux lignes qui s'entremêlent en permanence, une artistique et une politique. Elles sont parfois parallèles, parfois convergentes, parfois divergentes. Et j'ai trouvé que l'appareil critique qui accompagne l'exposition ne démêle jamais tout à fait ce fil qui, finalement, l'exposition est vraiment entre deux, dans le sens où elle proclame une primauté de l'artistique, d'une certaine manière, puisque le bornage, par exemple, temporel, c'est 1908-1988, l'arrivée de Khalil Gibran à Paris en 1908, et puis la première exposition d'art arabe moderne à l'Institut du monde arabe en 1988. Mais quand on regarde les quatre sections de l'exposition, elles sont en fait très politiques. C'est les premières indépendances, les deuxièmes indépendances. C'est quand même ça qui rythme la production artistique. Ce qui complexifie encore la situation, c'est que les études décoloniales sont aujourd'hui centrale, complexe, extrêmement riche, développée internationalement, et qu'une exposition ne peut pas embrasser cette richesse et cette vivacité. Et elle conduit, au contraire, je trouve, dans l'exposition, souvent à des impasses. Par exemple, il y a des bijoux berbères qui font, à un moment donné, irruption dans l'exposition, qui n'ont aucun rapport avec cette histoire de la modernité. Il y a aussi quelques œuvres d'artistes qui n'ont aucun lien, eux, avec cette zone géographique. Par exemple, je pense à André Fougeron, un artiste réaliste socialiste français, qui peint, certes, des travailleurs immigrés, ce qui est très intéressant, mais il aurait fallu dans ce cas-là mettre aussi par exemple les artistes de la figuration narrative comme Rancillac qui ont peint cette réalité des travailleurs immigrés. Et puis enfin, et je voudrais juste le dire parce que ça fait quand même polémique internationalement parce que tous ces sujets sont hautement inflammables, il y a aussi des artistes qui n'ont strictement rien à voir avec l'exposition mais qui sont là quand même. Je pense par exemple à la princesse Farenissa Zeyd, qui est une Turque née à Constantinople, qui n'a jamais été ni arabe, ni d'ailleurs une colonie française, et au contraire plutôt d'une puissance colonisatrice. Bon, alors ensuite, par alliance, effectivement, elle s'est mariée avec un Irakien, puis un Jordanien, mais elle s'est toujours défendue d'appartenir à cette histoire. Un autre exemple, c'est un artiste merveilleux que j'aime beaucoup, qui est participé dans les années 20 au Grand Jeu avec René Dommal, puis au surréalisme, qui est Maillot, qui est un Grec, qui effectivement est né, je crois, en Égypte, parce que son père était en fait un ingénieur sur le canal de Suez, mais il est venu à Paris, il a fait toutes ses études à Paris, il n'a aucun lien.
Et sa mère était française.
Et alors, cerise sur le gâteau, je le dis quand même, son fils, qui est le prêteur de l'exposition, Jean-Gilles Maliarakis, puisque son vrai nom c'est Maliarakis, lui a un parcours impressionnant à l'extrême droite, puisqu'il est passé par l'Action française, le GUD, Occident, l'Ordre Nouveau, le Front National, ce qui n'est pas très décolonial, ça doit lui faire bizarre que son père soit dans ce contexte.
Sally Bonne, une réaction peut-être sur l'idée de l'exposition Shaker. Effectivement, 130 artistes, 200 œuvres, c'est difficile de... Voilà, il y a des grandes lignes qui sont tirées par ces quatre chapitres, ces quatre sections dans cette exposition.
Alors, ce n'est pas des grandes lignes, c'est des rassemblements qui sont des rassemblements, Stéphane Correa l'a bien dit, qui sont historiques, hein, qui effectivement bornent des périodes, 1908-1937, entre Renaissance arabe et influence occidentale. Après, on a les premières indépendances, Liban, Syrie, Égypte, Irak. Après, on a les deuxièmes indépendances. Après, l'art en lutte et la cause palestinienne. Donc, on est vraiment dans des préoccupations qui sont plutôt temporelles, historiques et politiques, d'ailleurs. Et dans lesquelles on intègre, en fait, des artistes, effectivement, très différents. En plus, il n'y a pas que des œuvres, il y a aussi des documents d'archives, des films, des revues, des textes théoriques qui sont présentés sous vitrine. Donc c'est vrai que cette masse en fait fait que l'exposition est complexe à appréhender. Mais en même temps, enfin moi il me semble que je suis d'accord avec cette dimension effectivement très très éclatée, hein, et parfois problématique dans cette masse, hein, parce qu'en fait elle oblige à interroger ce rapport à la fois, à regarder ses œuvres à la fois avec un regard qu'on va dire critique, esthétique, et puis aussi en fait de la ramener à une situation politique et historique qui fait qu'on est dans une espèce de tension permanente. Cependant, il y a quand même des découvertes. Et c'est aussi évidemment l'intérêt de cette exposition, des découvertes. Alors il y a des tableaux qui sont aussi assez symptomatiques. Et je pense dans la première partie, un tableau d'un peintre égyptien qui s'appelle Ramsès Younan, qui est un tableau de 1945 qui précède en fait son arrivée à Paris et qui est un tableau assez grand qui montre un atelier dans lequel on voit en fait des reproductions de tableaux de Quirico, de situations de Quirico, d'un tableau de Picasso et puis de formes qu'on emprunterait à Dali. Et c'est assez symptomatique ce tableau-là dans son ambiguïté, dans le sens où il semble dire finalement c'est ça l'art et c'est à ça que j'aspire. Et en même temps, c'est aussi une période, le tableau est peint en 45, et c'est dans une période qu'on a appelée le surréalisme égyptien. C'est intéressant aussi de voir les rapports entre le surréalisme français et le surréalisme égyptien. Donc là, il y a des choses qui sont aussi intéressantes d'un point de vue historique, et de constater que ce tableau-là est peint dans l'idée de lutter contre la désignation art dégénéré, puisque de Quirico, Dali et Picasso en faisaient partie. Donc on a ce tableau-là qui ne permet pas en fait de situer l'œuvre de Ramsès Younan. On voit quand même un petit dessin automatique dans une autre partie de l'exposition qui est absolument magnifique, mais il dit quelque chose en fait de cette tension que j'évoquais tout à l'heure. Sinon, après, dans chacune des salles, en fait, on découvre des œuvres. J'ai parlé tout à l'heure des Tel Adnan. Il y a c'est des choses qu'on a vues en France depuis quelques années, hein, qu'on voit maintenant plus régulièrement, mais notamment l'ensemble de ces Leporello. Hein, pour rappel, Tel Adnan est une poète et artiste. Peintre franco-libano-américaine qui produit en fait des livres qu'elle écrit, des poèmes qu'elle écrit et qu'elle dessine en fait sur des Leporello qui sont très beaux.
Stéphane Corrère, sur le rôle de Paris aussi, on en a dit un mot tout à l'heure, mais les commissaires d'exposition expliquent que dans la démarche de cette exposition aussi, c'est de cartographier les trajectoires de ces artistes arabes dans la capitale. Ils nous montrent les lieux de formation, là où ils ont exposé, là où il y a eu des rencontres également. Et donc du coup... il y a l'idée de montrer aussi à quel point il y avait une présence des artistes arabes à ce moment-là et qu'au fur et à mesure, ils ont disparu. Ces œuvres ont disparu des musées, qu'ils sont en tout cas invisibilisés, qu'ils sont restés, qu'ils sont reclassés dans les réserves.
Oui, alors effectivement, l'intérêt de l'exposition finalement vient on l'a dit en négatif avant, pour le dire en positif, c'est-à-dire que ce travail scientifique qui a été fait est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont quand même cartographié la présence de ces artistes arabes à Paris, effectivement, et on découvre pléthore d'artistes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des artistes qu'on connaît et qu'on apprécie déjà en général, par exemple comme Baya, qui est une artiste autodidacte qui a exposé en 47, repérée par Aimé Mag à Paris. Là, il y a des terres cuites qui sont beaucoup plus rares que ces gouaches, mais il y a des gouaches de 1947 configurées dans l'exposition chez Mag, donc c'est vraiment un ensemble exceptionnel. D'ailleurs, c'est une des qualités de l'exposition, c'est de réserver des sortes de niches monographiques aux artistes les plus intéressants, et là, effectivement, on peut se plonger dans l'univers. Mais il y a aussi des vraies découvertes, par exemple Mahmoud Mokhtar, que je ne connaissais pas, qui a exposé en 1930 chez Bernheim Jeune. Il y a une de ses œuvres, La fiancée du Nil, qui est vraiment une merveille de raffinement et une espèce de synthèse improbable de l'art déco et de la statuaire égyptienne. Mais il y en a plein comme ça dans l'exposition. Ça permet aussi de remettre en perspective, et ça je trouve ça très intéressant, finalement que cette identité arabe se réapproprie des artistes qu'on connaît mais qu'on n'aurait pas placé forcément dans cette perspective. Je pense à Georges Koskas, qui est un artiste assez merveilleux, qui était un artiste de l'abstraction géométrique dès les années 40. Très important et qui est là, mais moi j'ignorais même qu'il avait un lien si fort avec cet univers. Il est tunisien et malheureusement là aussi on ne voit pas qu'après les années 50 il devient figuratif avec un travail passionnant autour de l'expressionnisme, mais ça n'est pas là. Jaber, qui est un artiste tunisien brut, disparu en 2021, pareil, qui est tunisien, et là ce lien du coup permet de réenvisager son travail d'une manière assez différente.
Arabe, art moderne et décolonisation, Paris 1908-1988, c'est jusqu'au 25 août au musée d'art moderne de Paris. Et pour ceux ou celles qui ne pourraient pas y aller, il y a le catalogue de l'exposition qui est disponible aux éditions Paris Musée.
12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Et on parle maintenant de l'exposition Arabo-Futur, science-fiction et nouveaux imaginaires. C'est jusqu'au 27 octobre à l'Institut du Monde Arabe.
G-Land est une plateforme gratuite. Cependant, son accès est exclusivement réservé aux plus méritants, sélectionnés par nos soins, dénommés les gambergeurs. Nos gambergeurs sont des jeunes hommes tourmentés, délaissés et oubliés de notre société, n'ayant pas accès à des solutions d'évasion, d'accompagnement et de suivi personnel. G-Land a été conçu afin de permettre à ces gambergeurs une déconnexion totale, favorisant une reconnexion à soi-même, afin de préserver au mieux leur santé physique et mentale.
Avec cette création de l'artiste Sarah Sadiq, nous voici donc propulsés dans le monde du futur tel qu'elle l'imagine, avec de l'humour, avec des références aussi à la pop culture ou à la culture maghrébine en France. Voilà le principe, en quelque sorte, pour vous donner une idée de cette exposition Arabo-Futur à l'Institut du Monde Arabe, qui s'inscrit donc dans un contexte que le patron de l'image, Jacques Lang, qualifie de Narda scientifique, de renaissance scientifique des pays du monde arabe. Alors que des artistes du monde entier questionne justement nos sociétés actuelles. L'exposition veut mettre en avant les vidéastes, les plasticiens, les penseurs, les performeurs d'aujourd'hui qui se sont donc eux aussi tournés vers le futur. En quoi cette voie de l'anticipation ou de l'imaginaire stimule donc cette créativité que nous apprend cette exposition qui se présente on peut le dire comme une forme de laboratoire, Stéphane Coréard, qu'est-ce qu'on y apprend? Non.
Oui, laboratoire si vous voulez, mon cher Nicolas, volontiers.
Vous n'avez pas l'air convaincu.
Non, c'est une exposition France Culture, mais ce qui me rassure, c'est qu'il ne l'avait pas vue avant de la désigner comme exposition France Culture, ce qui explique peut-être cela. Je voudrais juste relever que, d'ailleurs, aussi bien Géraldine tout à l'heure que vous, je crois qu'on a déjà entendu 3 ou 4 fois depuis tout à l'heure que c'est une exposition qui questionne. Et effectivement, c'est dans des dossiers de presse, dans les catalogues, de manière aussi très récurrente. Et d'ailleurs, les commissaires en la matière promettent des œuvres qui évoquent, je cite, la mondialisation, les désastres écologiques, les migrations, les exodes, les identités et la décolonisation, et qui questionnent, on y vient, l'ultracapitalisme, les nouveaux systèmes de domination, le transpost-humanisme, la question du genre et des marges. Donc en fait, c'est des œuvres qui questionnent la question. Donc on est quand même déjà dans quelque chose d'assez puissant.
C'est conceptuel.
Voilà, notre excitation est donc à son comble. Lima va enfin dénoncer certaines dérives de la pétromonarchie way of life, comme par exemple le sort fait aux femmes, aux homosexuels, j'imagine, la manipulation du climat, l'esclavagisme, les pouvoirs autoritaires. Puisque moi, pour moi, c'est ça la science-fiction. L'intérêt de la science-fiction, c'est de faire un pas de côté, c'est de regarder notre monde depuis un autre point de vue, et ça a toujours servi à ça. C'est la grande science-fiction américaine de Philip K. Dick, par exemple, qui, venant d'un univers à la fois gauchiste et féministe, finalement a décrit d'essayer de dénoncer le règne du faux. Alors là, je rassure tout de suite nos auditeurs, aucune dénonciation dans cette exposition, ou très peu. C'est pas à ça que sert la science-fiction, c'est plutôt à nous vendre le présent, en fait, sous forme d'un gigantesque mall, un centre commercial, si vous voulez, plein de couleurs pop et néons dans lequel évolueraient des silhouettes androgynes. Je pense que c'est déjà un peu Dubaï. Je sais pas si c'est le futur, mais en tout cas, c'est le présent. J'ai pensé complètement dans cette exposition à un livre que j'aime beaucoup d'Henry Miller, qu'il a écrit en 1945 quand il est rentré aux États-Unis après 10 ans d'absence, et qui s'appelle Le cauchemar climatisé. Et il décrit, alors c'est pas de la science-fiction, il décrit le monde qu'il trouve à son retour. J'avais l'impression de marcher dans le sillage d'un géant en folie qui avait semé la terre de ses rêves hystériques. Si seulement j'avais vu un cheval ou une vache ou même une chèvre décharnée en train de mâchonner des boîtes de conserve, quel soulagement ça aurait été. Mais on ne voyait rien qui appartint au règne animal, végétal ni humain. Donc la question, moi qui m'aurait intéressé, c'est de mieux comprendre le monde arabe, ou de mieux le connaître en sortant de l'exposition. Et malheureusement, la réponse est non.
Sally Bonne, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste que Stéphane Coréard sur l'intérêt même de cette exposition, ou en tout cas sur la réunion de ces 18 artistes sous cette bannière arabo-future?
Alors, il y a une chose intéressante, on a traité les deux expositions aujourd'hui, il me semble que cette exposition tente, je ne sais pas si elle y arrive ou si elle y parvient, mais elle tente d'une certaine manière de répondre à une des problématiques de l'expo dont on vient de parler, c'est-à-dire de proposer une coupe contemporaine dans les pratiques artistiques dites arabes. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire non plus, ni d'ailleurs ce terme d'arabo-futurisme, ou arabo-futur, pardon, parce que l'arabo-futurisme, justement, ce n'est pas ce qui est proposé dans cette exposition, avec cette idée, dans l'éclatement qui est proposé, et j'y reviendrai, dans des pratiques artistiques très diverses, quand même de montrer comment celles-ci se sont réappropriées des formes, des couleurs, des sujets, des esthétiques singulières qui seraient représentatives en fait d'un art qui serait peut-être justement décolonisé. Alors c'est pas évident. On parle effectivement de science-fiction. Hein, l'exposition est sous-titrée science-fiction et nouveaux imaginaires. Donc ça rassemble, on l'a dit, 18 artistes qui viennent du monde arabe, de près ou de loin, hein, Maroc, Arabie Saoudite, Syrie, Liban et ses diasporas. Il y a quand même pas mal d'artistes qui sont en fait des artistes français, hein, qui sont d'origine marocaine ou tunisienne, etc. C'est une exposition qui est assez troublante, notamment dans ses formes, parfois réjouissante, et qui porte sur, Stéphane Coréard l'a évoqué, hein, cette question du présent, mais d'une question du présent en fait qu'on aurait enjambé. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'aller à la fois puiser dans un rapport entre passé et futur pour expliquer la situation qui est la nôtre. Donc il y a des formes d'exhumation du passé dans des mondes futurs, avec cette idée d'une anticipation politique qu'on connaît d'ailleurs, hein. Donc une forme de futurologie narrative très colorée, brillante à tous les sens du terme, enfin brillante au sens ça brille,
il y a de la lumière, de la couleur,
oui. c'est très coloré. C'est parfois drôle, parfois assez tragique, souvent un peu kitsch. Moi, ce qui m'a Un peu posé problème, c'est les différentes thématiques dans une expo qui finalement n'est pas immense. On a futurisme du golf, mélancolies urbaines, avatar et mondes amplifiés, subvertir la SF, hybridation, archéofiction, monde organique, etc., etc. Et donc on se trouve confronté à des œuvres qui sont d'une part des formes justement des vidéos numériques avec de la réalité virtuelle ou des formes très plutôt en fait on va dire archaïques ou classiques avec de l'encre sur papier et des tableaux. D'ailleurs, j'ai découvert l'œuvre d'une artiste que j'ai trouvée absolument magnifique, qui s'appelle Schuker, qui peint des tableaux qui sont très beaux. Alors, sur ce rapport à la science-fiction, il y a quand même des choses qui m'ont intéressée, notamment l'œuvre de l'artiste franco-marocain Mounir Ayache, qui fait des diaporamas futuristes avec un jeu auquel on peut jouer d'ailleurs, mais les formes en fait produites de ces diaporamas et dans ce qu'ils interrogent me semble intéressant. Et il y a aussi en fait le film très loufoque et joyeux de Meriem Benani qui est marocaine et qui vit aux États-Unis où là en fait il y a une fête marocaine où les images sont retravaillées comme des filtres Instagram et où tout d'un coup les yeux sortent et en fait c'est très drôle et ça sauve un peu en fait cette exposition très éclatée.
Stéphane Correr, est-ce qu'il y a eu une œuvre, un artiste qui sauve un peu votre expérience dans cette exposition ?
Absolument, absolument, non.
Rassurez-moi.
Il y a des choses intéressantes. D'ailleurs, la voix qu'on a entendue, celle de l'œuvre de Sarah Sadiq, la vidéo, j'ai trouvé très très bien parce qu'elle parle justement du monde des banlieues, mais français. Ça n'a dit rien du monde arabe d'aujourd'hui. Donc c'est là où il y a effectivement une ambiguïté. Mais en revanche, c'est vraiment la dernière section, celle qui est consacrée aux mondes organiques, monde d'avenir, que j'ai trouvé la plus intéressante. C'est celle qui a le moins à voir avec le sujet. Oui. Il y a effectivement les grandes toiles d'Alain Schuker qu'on avait vues à la galerie Bessières et qui sont une cosmogonie totalement personnel, des écosystèmes dont on ne sait pas si c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi les sculptures de cuir de la saoudienne Zahra Al-Ghamdi qui sont bouillies, cousues, coupées, rembourrées et qui colonisent l'espace comme des oursins ou des coraux fossilisés. Très belle installation.
Bon ben voilà, on va quand même souligner qu'il y a des choses à voir. Donc dans cette exposition Arabe au futur, science-fiction et nouveaux imaginaires, c'est jusqu'au 27 octobre à l'Institut du Monde Arabe. Donc c'est une exposition en partenariat avec France Culture et merci donc à nos deux critiques du jour. Stéphane Coréard, critique, commissaire d'exposition, directeur artistique de la Galerie Levenco à Paris. Merci Sally Beaune, maître de conférence en esthétique à l'Université Picardie. Jules Verne, critique d'art et commissaire d'exposition. On vous met bien évidemment toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Et vous retrouvez également sur cette page le débat critique et tous les autres en réécoute, tout comme sur l'appli Radio France.